Bonjour, c'est Lucie, c'est le début de l'émission d'information locale et au menu aujourd'hui, l'info du jour, mobilisation au centre hospitalier Guillaume Régnier contre la fermeture d'un service, reportage long format sur les seniors et l'habitat, le premier de 3 épisodes sur le sujet. Il y aura de la musique dont une nouveauté, une interview avec Gilbert Leduc de l'habitat partagé de la Bigotière pour annoncer la fête de l'arbre, 2 recommandations culturelles pour le week-end et puis la chronique de la CIMAD. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Allez, on commence avec l'info du jour que j'ai retenu pour vous. Mobilisation au centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes à l'appel du syndicat CGT. Ça se passait ce jeudi 8 juin en début d'après-midi. Alors les équipes sont régulièrement mobilisées pour défendre les moyens de l'établissement. Là, le mot d'ordre, c'était non à la fermeture de l'unité Morel. Dans cette unité, on trouve 20 lits de psychiatrie adulte, un service qui va fermer à la fin du mois, le 30 juin. À la place, la direction annonce la création d'une unité mobile de soins intensifs et d'intervention précoce, un projet de longue date pour proposer une alternative à l'hospitalisation et parce que les soignants manquent pour faire vivre l'unité Morel. Et ça ne passe pas pour la CGT. Le développement de l'ambulatoire ne doit pas se faire au détriment de l'intra-hospitalier, ce sont les mots du syndicat. Est-ce que tout le monde pourra être accueilli à partir de cet été, dans son secteur d'origine et avec quelles conditions d'accueil? Ce sont les questions posées par les personnes mobilisées ce jeudi qui craignent également des répercussions sur les autres services, que la charge de travail y augmente dans ces services, également que les entrées-sorties de patients soient plus importantes. Allez, après l'info du jour, c'est l'heure d'un reportage long format. Un reportage signé Elvire Moreau, volontaire en service civique qui vient de terminer son volontariat. Elle nous laisse découvrir sa série « Habiter et vieillir à Rennes ». Une série en 3 épisodes à découvrir dans les semaines à venir. Dans ce premier épisode, et si on vivait à plusieurs, découvrez le logement intergénérationnel avec l'association La Maison en Ville et puis la résidence Autonomie dans le quartier Colombier. Bonne écoute.
C'est pas bien drôle d'être seule, mais à côté de ça, j'aime encore mieux être seule que d'être placée dans une maison de retraite. Autant rester chez soi. En communauté comme ça, en dortoir, ça ne va pas.
Enfin, il vaut mieux être ici avec d'autres que d'être toute seule. Hein.
Oh oui, si vous voulez que je fasse toute seule.
Bon, ma foi.
Elles sont là, il faut s'en occuper jusqu'à la fin. Ouais. Tant qu'il y a de la vie, il faut s'en occuper.
La récente réforme des retraites et le mouvement social qu'elle a suscité a mis en lumière plusieurs problématiques concernant les conditions de vie des personnes de plus de 60 ans et notamment leur logement. Aujourd'hui, alors que la population augmente et que nous vivons de plus en plus longtemps, comment répondre aux différents besoins des personnes âgées et de leur cadre de vie? S'intéresser au logement des personnes âgées, ce n'est pas que répondre à la question du vieillissement de la population, mais aussi s'interroger sur l'organisation de notre société, que ce soit en termes d'emploi, de soins ou de liens entre nos générations. Dans cette série de reportages, nous allons donc découvrir différentes manières d'habiter et de vieillir à Rennes et quels sont les enjeux qui suscitent. Dans ce premier épisode, nous allons partir à la rencontre de 2 façons d'habiter ensemble, le logement intergénérationnel et le logement en résidence autonomie. Nous rencontrons d'abord Jocelyne et Manon, qui habitent ensemble depuis septembre en logement intergénérationnel.
Je m'appelle Jocelyne Fouchot, j'ai 77 ans. Je suis veuve depuis 2017, sans enfant. J'habite à Rennes depuis mon enfance.
Je m'appelle Manon, j'ai 18 ans. Je suis étudiante à Rennes 2 depuis septembre. Et j'habite à Rennes, du coup, depuis septembre.
Alors, moi, comme je viens de vous dire, donc en 2007, mon mari est décédé. Je me suis retrouvée donc toute seule dans cette grande maison. Et avec donc une amie, Isabelle, on a décidé de chercher une structure pour accueillir quelqu'un dans ma maison. Il s'est fait que sur Internet, on a trouvé Maison en Ville. J'étais un peu réticente, mais malgré tout, donc, on m'a forcée et heureusement. Donc, j'ai rencontré Anne-Marie de Maison en Ville à la suite de ça pour accueillir une étudiante intergénération.
C'est un peu compliqué de trouver un logement, surtout en tant qu'étudiante. Donc, du coup, j'avais découvert l'association l'été dernier. Et j'ai regardé un peu les critères de l'association et je trouvais que c'était vachement intéressant et enrichissant. Donc j'ai pris contact avec Anne-Marie de Maison en Ville aussi.
Comment est-ce que ça s'est passé la rencontre ?
Alors, en 2017, donc, j'ai rencontré Héloïse, une jeune étudiante de 23 ans qui était en histoire de l'art. Donc elle est venue à la maison, on a discuté pendant de bonnes heures. Et puis c'est avéré qu'au bout de ces deux bonnes heures, on s'est rendu compte qu'on était faites l'une et l'autre pour vivre ensemble pour une année normalement. Et d'une année, ça a fini en 3 ans. Et aujourd'hui, Héloïse est ma petite fille et on passe toutes nos vacances ensemble depuis ce temps-là. Donc d'où justement, moi je dis merci à Maison en Ville puisque ça m'a permis d'avoir une petite fille que je n'avais pas. Avec Manon, on a discuté aussi pendant 2 heures avec ses parents. Et puis, il s'est avéré qu'on s'est rendu compte que par nos goûts, ce qu'on aimait faire, on pouvait, vivre une année sans problème.
Est-ce que vous aviez toutes les deux des appréhensions un petit peu au début de votre rencontre ?
Pas vraiment, même si c'était la première fois que du coup, je vivais plus chez mes parents. Donc, c'est fait une petite appréhension, mais au final, je me suis assez rapidement habituée. Donc, du coup, pas trop de problèmes.
La première fois, oui. Et puis, on se rend compte que c'est enrichissant, qu'on apprend plein de choses avec les jeunes. Parce que moi, n'ayant pas eu d'enfant, j'ai eu la chance de rencontrer Héloïse, après de rencontrer Joseph, de rencontrer Flora et Manon aujourd'hui. Je suis restée en contact avec tout le monde. On se retrouve, on fait des repas ensemble et c'est super.
Dès que j'ai pas cours ou dès que je suis là, je suis avec Jocelyne, et puis on fait des parties de cinéma, on regarde des matchs de foot, on mange ensemble, etc.
On parle de tout, il n'y a pas de sujet tabou. On parle de tout, aussi bien de politique, on parle de sport, on parle de la vie quotidienne. Moi, je suis assez ouverte pour pouvoir discuter de tout avec Manon.
Pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une cohabitation se passe bien ?
Déjà, il faut avoir un minimum de discussion, parce qu'il faut pouvoir parler, sinon on s'ennuie un petit peu rapidement, je pense. Il faut trouver des occupations en commun. C'est pour ça que, d'ailleurs, Maison en Ville, c'est important. Enfin, au début, les premiers contacts, surtout le rôle d'Anne-Marie, parce que c'est elle qui choisit un petit peu qui va avec qui.
J'ai appris des choses. C'est pour ça que vous dites que c'est très enrichissant. Joseph... qui est venu à moi, un garçon aussi très attachant, mais pourtant avec des convictions tout à fait différentes des miennes, voyez. Et on a pu, même si on est vraiment à l'opposé et aux antipodes l'un de l'autre sur certains sujets, on a gardé des contacts. Il est encore venu cette semaine manger, on a mangé des pizzas ensemble. Voyez, donc il n'y a pas de frein. Si on est intelligent et qu'on respecte les autres, ça peut se faire sans problème.
Et comment est-ce que ça a été perçu par votre entourage, ce logement ?
Moi, très bien. Tout mon entourage, que ce soit mes amis ou ma famille, a apprécié fortement mon idée de l'intergénération.
Moi aussi, très bien. J'imagine la famille, les personnes qui vivent seules aussi, qui avaient pensé à faire la même chose. Bon, après, ils ont pas forcément de place dans le logement, donc ils peuvent pas, ou sinon ils ont pas d'association, parce que généralement c'est plus pratique d'avoir une association justement pour aider, mais sinon oui, ils ont apprécié aussi l'idée.
Est-ce que c'est pour l'instant une manière de vous loger qui vous convient et que vous voyez perdurer dans le temps ?
Moi ça me convient très bien. Après, perdurer dans le temps, en fonction de si je continue la licence l'année prochaine, moi je veux continuer l'année prochaine. Après, je sais pas si je continuerai ou pas, mais je me vois pas faire ça pendant 5, 6, 7 ans, peut-être 2, 3 ans encore. Ça me plairait, oui.
Moi, tant que je pourrais, je le ferais. Moi, je dirais simplement ceci. Maison en Ville manque de logeurs. Il faut que les gens n'aient pas cette appréhension de dire « j'accueille un jeune chez moi, je vais me retrouver avec quelqu'un, etc. » Non, 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 non. Surtout si vous avez une chambre disponible, si vous êtes ouvert, n'hésitez pas. Vous verrez que ça ne peut être que bénéfique pour vous. Plutôt que d'être toute seule le soir, il y a une présence, il y a de la jeunesse. On peut chanter, on peut rire, c'est important. Il y a quand même des obligations, quand même, pour savoir quand même aussi, pour quelqu'un de jeune. D'être obligé d'être là le soir, et puis vice-versa pour la personne âgée, il y a aussi des obligations. On doit être ouverte, on doit, On doit respecter l'autre, on doit se demander on mange quand, on mange à quelle heure, tu veux manger à quelle heure, etc. Ne pas imposer non plus. Si on veut vivre dans une bonne entente l'une et l'autre, il faut que chacune des deux fasse des concessions.
Si on ne serait pas prêt à ça, on n'irait pas vers cette association-là. Enfin, non. Moi, je sais que je me suis intéressée à l'association parce que je savais que je pouvais respecter ce qu'ils proposaient.
Et moi, c'est pareil. De mon côté, si je m'étais rendu compte que je ne pouvais pas supporter, entre guillemets, cette présence, ben, je ne l'aurais pas fait non plus.
C'est par l'intermédiaire de l'association La Maison en Ville que Jocelyne et Manon se sont rencontrées. Vous allez à présent entendre la voix d'Anne-Marie Kathleen, chargée de mission logement à l'association La Maison en Ville.
L'idée de l'hébergement intergénérationnel, c'est né d'une volonté de lutter contre l'isolement des personnes qui sont âgées, les personnes à la retraite, et l'isolement des jeunes, notamment pendant leur période d'études. Donc vraiment le principe, c'est de pouvoir rapprocher les générations entre elles, qu'elles puissent profiter de vivre ensemble sous le même toit de façon harmonieuse.
Qu'est-ce qui pousse généralement les étudiants et les personnes âgées à se lancer dans le logement intergénérationnel ?
Ce qui est le motif premier, c'est la solitude. Pour les logeurs, donc ils vont ne pas avoir envie d'être seuls, c'est un moyen pour eux de trouver une présence qui va être aussi rassurante. C'est un moyen de pouvoir rendre service à des jeunes, ça c'est profondément utile aussi, et c'est une vraie pertinence de la part des logeurs. Les logeurs, ils vont trouver aussi comme bénéfice de pouvoir faire des choses ensemble, refaire des choses que des fois ils faisaient moins, c'est dynamisant. Et de la part des jeunes, c'est un environnement de vie où on n'est pas seul, où on peut trouver des conditions d'études dans un cadre de vie agréable et convivial.
Quel est le rôle de la maison en ville au niveau du logement intergénérationnel ? Est-ce que vous mettez simplement les personnes en contact ?
Notre travail, il s'étend plus dans la durée, c'est-à-dire qu'on va sélectionner à la fois le profil des logeurs, les étudiants, donc on les rencontre tous de façon individuelle. Ensuite, à la maison en ville, on va pouvoir accompagner le projet des logeurs. Quand on a sélectionné un candidat, on peut leur présenter. S'ils s'entendent ensemble, on va préparer les documents juridiques, le contrat d'hébergement intergénérationnel solidaire qu'ils vont signer ensemble. Et ensuite, pendant toute la période de cohabitation qui est définie, on va rester en lien pour accompagner les binômes intergénérationnels qui sont formés. À la maison en ville, on propose des formules d'hébergement chez l'habitant. Le point commun, c'est que ce sont des hébergements où on n'est pas seul. Il y a des chambres chez l'habitant contre un loyer, un contrat de location classique, 9-10 mois pour les étudiants. Ça peut être des colocations à projet, où là les jeunes ils vivent à plusieurs, sous le même toit, et en développant un projet solidaire ensemble. Et puis l'hébergement intergénérationnel, c'est bénéficier d'une chambre privative chez une personne, en contrepartie cette fois-ci plus de présence, de moments d'échange et de partage de la vie quotidienne.
Dans les logements intergénérationnels, les jeunes doivent aussi payer un loyer ?
Alors dans le cadre de la formule pour l'hébergement intergénérationnel solidaire, le logeur il peut définir son projet différemment, avec soit juste l'idée de régler financièrement une participation pour les charges et une demande au niveau de la présence plus importante. Et il peut aussi demander un loyer, qu'on va définir un loyer solidaire. La loi Elan, elle définit que la participation financière, elle est modeste. Ça veut dire qu'elle est inférieure au coût du loyer d'une chambre chez l'habitant en contrat de bail classique. Donc la participation financière, elle est possible et elle est modeste.
Pour préciser ses propos vis-à-vis du prix du logement, on souligne également que dans le cadre de l'association La Maison en Ville, il faut payer une adhésion et une cotisation afin de pouvoir bénéficier de ces propositions. Quels sont les services que les jeunes doivent faire du coup dans les logements intergénérationnels ?
Au niveau des services, ça va être vraiment de s'impliquer, de participer à la vie quotidienne. L'idée, c'est de pouvoir faire ensemble. Ça peut être très simplement aller mettre le linge à sécher ensemble, faire la vaisselle ensemble, cuisiner ensemble. Ça peut être faire une sortie. Il y en a qui font du jardinage, d'autres de la musique. Ça va dépendre chacun des affinités, du souhait et des goûts de chacun. Les petits services, ça peut être autour de tout ce qui est informatique, numérique. Parfois, ça peut être des petites choses de la vie quotidienne qui peuvent paraître un peu toutes bêtes, mais qui sont très utiles.
Est-ce que vous, dans votre expérience à la maison en ville, vous voyez certains problèmes récurrents dans le logement intergénérationnel ? Est-ce que des fois, justement, ça peut mal se passer entre les personnes ?
Ça pourrait être autour du fait de la rencontre, l'entente, peut y avoir des difficultés sur le projet, d'avoir envie, par exemple, de s'investir dans ce projet, puis finalement se rendre compte que au quotidien, avec la charge de travail pour l'étudiant, bah, il ne va pas être en capacité de pouvoir être aussi présent qu'il l'aurait souhaité.
Cette association, elle est d'abord à destination des jeunes étudiants, mais est-ce que vous avez vu aussi, chez les personnes âgées, une certaine amélioration dans les conditions de vie ?
Oui, le bénéfice, il est vraiment très important, que ce soit pour les personnes âgées, le côté dynamisant, le côté sécurisant. En fait, ça permet vraiment, pour certains, de faire le choix de continuer à vivre chez soi. Sur le territoire de Rennes, il y a plus de demandes de la part des jeunes qui recherchent un hébergement dans cette formule solidaire que de logeurs qui sont disponibles et qui souhaitent accueillir. Ça reste une très belle formule pour tous ceux qui ont envie de se rencontrer, de partager des temps. C'est soutenant.
Habiter ensemble, ça peut être continuer d'habiter chez soi, comme le permet le logement intergénérationnel, mais ça peut être aussi, lorsqu'on le souhaite, être accueilli dans un lieu de vie. Les résidences autonomie sont des établissements médico-sociaux publics qui permettent aux personnes âgées de construire un nouveau chez soi, tout en étant accompagnées et en pouvant participer à la vie collective de la résidence. On rencontre Marilyn Broca, responsable de la résidence autonomie Le Colombier.
Bonjour. Marilyn Broca, je travaille au CCAS, à la ville de Rennes, depuis mars 2003. J'ai débuté comme infirmière, après infirmière coordinatrice en EHPAD, et je suis responsable de la résidence autonomie depuis juillet 2018. Donc, on se trouve à la résidence autonomie, Le Colombier. On est situé en plein centre de Rennes, derrière le centre commercial Le Colombia. C'est une résidence qui existe depuis 1974. C'était dans un premier temps ce qu'on appelait les foyers logements. Avec la loi ASV, de l'adaptation de la société au vieillissement, les foyers logements ont été étiquetés résidence autonomie. Et dans cette transformation d'appellation, l'ARS nous a attribué un budget, une enveloppe, pour mettre en place des ateliers dits de prévention. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous avons une activité gym douce tous les lundis matins, une activité sophrologie une fois tous les 15 jours, une activité nutrition une fois par mois, et un atelier mémoire une fois par semaine. Et ce sont des ateliers qui sont ouverts à tous les aînés de plus de 60 ans du territoire.
Quelles sont les autres particularités qu'une résidence autonomie a par rapport, par exemple, à un EHPAD ou à une maison de retraite ?
La particularité, c'est que nos résidents louent des espaces privés, des petits appartements de type T1 en ce qui concerne notre résidence. Et donc, il y a un espace de vie. Et puis avec une kitchenette, le résident loue un appartement, donc il y a un loyer, des charges, il y a l'APL. En fonction des revenus, il peut y avoir l'aide sociale aussi, l'aide sociale à l'hébergement, au repas.
Et à partir de quel âge et sur quels critères les personnes peuvent faire une demande pour venir se loger ici ?
Donc à partir de 60 ans, c'est sur dossier. Souvent, ce sont des personnes qui sont isolées. Isolés soit géographiquement de leur famille, soit isolés parce qu'ils n'ont personne autour d'eux. Donc ça leur assure une sécurité. On a une équipe de jour composée d'aides-soignantes, d'agents de restauration, une animatrice et un veilleur la nuit. Donc du coup, ça permet aux personnes isolées d'être sécurisées avec un espace privé à eux, mais avec aussi une vie sociale autour. On est en plein centre-ville, donc ils peuvent aussi avoir leurs activités à l'extérieur de la résidence, sans problème. Et à travers les activités, ça permet aussi de faire du lien. Le fait qu'ils descendent en salle à manger, en salle de restaurant pour le repas du midi, ça leur permet de voir d'autres personnes et de pouvoir échanger.
Comment se passe la transition entre son logement et la résidence ?
Les personnes qui se projettent en structure, déjà, viennent visiter une première fois. Il y a un temps de visite, un temps de rencontre avec moi, ma collaboratrice. On échange sur, effectivement, ce qu'ils viennent rechercher, ce qu'ils attendent. Mais il faut que ça mûrisse. Évidemment que c'est compliqué pour une personne de laisser derrière lui derrière elle une maison pour intégrer un 33 mètres carrés. Et puis, c'est aussi 50 ans peut-être de vie en commun avec un conjoint, une famille. Enfin, voilà. Donc, c'est effectivement quelque chose qui peut être compliqué. Nous avons 64 logements, dont un qui permet un accueil temporaire, c'est-à-dire qu'il est meublé et ça permet à certaines personnes qui sont un peu indécis de pouvoir venir occuper ce logement pendant 3 mois maximum et de voir un petit peu le fonctionnement de la résidence et voir si ce type de structure leur convient. Et puis, s'ils décident de rester, eh bien après, ils vont louer un appartement à meublé. Donc là, on en a un en place et en septembre on va en meubler 2 autres.
Cette structure résidence autonomie, il y en a beaucoup peut-être en France ?
En France, je ne saurais pas dire. En tout cas, sur l'Ille-et-Vilaine, sur le 35, je crois que c'est 20.
Et il y a beaucoup de personnes qui sont en demande de ces résidences ?
Alors encore faut-il qu'on connaisse nos structures. Donc du coup, on a tout un travail effectivement sur la communication à effectuer.
Et peut-être d'une façon plus personnelle, dans votre expérience professionnelle, vous, ça a changé quelque chose de travailler dans cette résidence-là ?
Alors moi, je travaille avec le public âgé depuis 2003. Mais l'avantage, c'est que j'ai vu les évolutions des besoins de la personne sur toutes les étapes de la vie à partir de 60 ans. Voilà. Et donc, il y a 20 ans, dans les EHPAD, en fait, on avait notre population actuelle que j'accueille aujourd'hui en résidence autonomie. En fait, ils étaient beaucoup plus valides et autonomes. Les moyens se sont développés aussi pour maintenir les personnes à domicile. Mais ce lien social que l'on retrouve à la résidence est ce qui fait aussi la différence entre le domicile pur et puis après l'EHPAD où il y a du lien social, mais qui va accueillir une population plus dépendante.
Merci à Jocelyne Fouchaud, Manon Potier, Anne-Marie Catlin et Marilyn Broca pour ce reportage. C'était le premier épisode de notre série Habiter et vieillir à Rennes. Dans le prochain épisode, on s'interrogera sur le maintien à domicile avec le CCAS de Rennes.
Have to close its doors. Well, foreclose on my hopes. I can't keep up these feelings anymore. I think folk are misguided, but I just want them to be free. I hope they get to heaven and that there's nothing there for me. I spend my days feeling sorry, but who deserves my pity most? Well, thinking so catastrophically, it gets you nowhere, I suppose. And maybe I should concentrate and put my energy elsewhere. Maybe I should focus on a little self-care. And do you still make the lemonade? Well, life only gives you lines. Well, it's okay.
Limea Mad par Volk Soup, une nouveauté musicale repérée par notre programmateur Yann et à retrouver sur un album Incompetent Hits The Singles Volume 1. C'est sorti le 19 mai chez Swish Swash Records. Et alors Volk Soup, eh bien, c'est un trio britannique originaire de Leeds et qui sort là son premier album composé de 8 titres. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être connecté en ligne sur canalb.fr. On passe tout de suite à l'interview du jour. On va prendre de la hauteur. Gilbert Leduc, bonjour.
Bonjour Lucie.
Je vous présente, vous êtes un habitant de la Bigotière, cet habitat partagé et éco-hameau dont on a déjà parlé sur les ondes de Canal B, qui est implanté à Épignac, pas très loin de Dole de Bretagne. Vous coordonnez aussi la Fête de l'Arbre, un événement qui arrive là pour une première édition et qui est organisé dans le cadre de la Nuit des Forêts avec une structure qui s'appelle Le Ruisseau. C'est une coopérative récemment créée. Comment on peut la présenter, cette coopérative, en quelques mots ?
Alors Le Ruisseau coopérative, c'est effectivement une coopérative qui s'est créée il y a moins de 2 ans et qui a déjà 5 salariés qui travaillent autour des communs et de la préservation de l'environnement. Donc il y a plusieurs volets en lien avec le territoire, notamment un gros volet sur l'alimentation. Donc il y a des paniers qui regroupent plus de 40 producteurs locaux et bio. Et puis il y a aussi un atlas biodiversité qui est en cours avec 3 communes. Enfin bon, il y a sur le ruisseau coopérative un certain nombre de personnes qui ont des compétences en écologie. Donc, l'idée, c'est de travailler aussi sur les transitions écologiques, quoi.
J'ai aussi vu qu'il y avait une partie événementielle, notamment avec cet événement de la Fête de l'Arbre, et puis aussi des propositions de formation ou encore de location de lieux. Vous êtes adhérent à cette structure. Au départ, ça a été lancé par des habitants de la Bigotière. C'était une forme de prolongement de votre projet.
Voilà, disons que bon, l'éco-hameau de la Bigotière, c'est créé par un groupe de 6 couples, avec l'idée de pouvoir développer sur le territoire un certain nombre de projets en lien avec la population. Donc on a commencé par deux activités économiques, une autour donc de l'accueil social de femmes avec leurs enfants, en lien avec les services sociaux du département. Et puis une deuxième, c'était donc une boulangerie, donc de faire du pain au levain avec des blés anciens, et du coup ouvert sur le territoire. Ça a permis de connecter aussi un certain nombre de producteurs locaux qui avaient des besoins de distribution, soit parce qu'ils se créaient et qu'il du coup fallait trouver des débouchés. Donc venu rapidement l'idée de regrouper un peu tout ça et de faire ces paniers qui s'appellent les paniers de ruisseau. Donc on fait une commande toutes les semaines et donc livraison le vendredi, soit à la Bigotière, soit sur 7, je crois qu'il y a 7 dépôts dans le territoire, les plus loin étant Cancale et Saint-Malo, quoi.
Pour info, c'était vous le boulanger, on parlait de boulangerie.
Oui, pour info, c'est moi qui ai démarré la boulangerie, qui est reprise depuis par Nolwenn et qui fait du très bon pain.
On arrive à cet événement, la Nuit des Forêts, alors qu'il y a un événement national qui va vivre là sa 4e édition du 9 au 18 juin. Ça se passe dans 170 forêts de France métropolitaine et d'outre-mer. Et il se trouve qu'une forêt, il y en a une à la Bigotière, ou plutôt un bois. Il ressemble à quoi ?
Alors, c'est un espace qui fait 12 hectares, mais nous, on n'en a qu'un demi-hectare. Mais c'est sur ce petit espace, en bordure du ruisseau, que du coup, on a proposé aux Nuits des Forêts ce projet, et donc ils nous ont sélectionné pour entrer dans le cadre de ce festival. Donc c'est un bois qui recense quand même plus de 70 espèces végétales, ce qui n'est pas rien pour un espace de bois, et donc avec des vieux arbres, des vieux chênes notamment, et aussi des plus jeunes. C'est un bois qu'on a choisi de laisser le plus possible dans une gestion, le moins possible d'intervention, quoi. Donc il y a un petit chemin qui permet de circuler, de s'approcher du ruisseau, et le reste, ben, on y trouve des végétaux vivants et des bois morts qui permettent aussi à un certain nombre d'animaux de vivre, notamment. Donc on a fait des piégeages photos et vidéos qui nous ont permis de voir Évidemment, des chevreuils et des écureuils, mais aussi des loirs, des sangliers et des pics, des jets, des chênes, enfin bon.
La faune voilà, locale, quoi.
Une belle population locale qui vit juste à côté du hameau et qu'on ne soupçonne pas dans la journée.
Il a quel usage ce bois au quotidien? C'est un lieu pour se ressourcer. On le redit, il y a des habitants, mais aussi des activités économiques et sociales qui ont lieu sur le site. C'est un lieu connu de tous.
Oui, c'est un lieu qui est connu, qui est bon, juste à côté de l'accès, mais quand même suffisamment de côté pour être un endroit tranquille où on peut y aller si on choisit d'y aller, en bordure de ce joli petit ruisseau.
C'est le moment où je donne quelques chiffres. La Bretagne, c'est une région peu boisée. Ça représente 15% de son territoire contre 30% à l'échelle nationale. C'est une forêt qui est à 92% et privée, mais qui joue tout de même un rôle important puisqu'elle absorbe 10% des émissions de gaz à effet de serre de la région. Et puis, dernier chiffre, 62% du bois est récolté et valorisé en bois d'œuvre. Vous, le bois, vous y touchez ou pas du coup
Alors, il y a un projet avec l'Orbisseau Coopérative de travailler sur l'école des haies et du bocage. Donc, il y a Jean-Luc qui est d'ailleurs actuellement en formation pour pouvoir développer ce volet.
Jean-Luc Toulec, c'est ça?
C'est Jean-Luc Toulec, oui, c'est ça, ouais. Et du coup, nous, le bois, en partie, il sert de bois de chauffage, mais il y a suffisamment à faire en élagage pour nos besoins. Il y a un projet qui est en cours aussi avec la SIC ENR, qui est donc énergie renouvelable de Pays de Rance, pour du coup développer aussi ce côté gestion de la ressource, quoi.
On arrive au programme de la première fête de l'arbre organisée à la Bigotière, donc sur la commune d'Épignac. Ça va commencer un peu avant le week-end puisqu'il y a deux projections organisées jeudi 8 et vendredi 9 juin. Ça se passe dans deux lieux différents, les jeudis et vendredis.
Alors jeudi soir, donc c'est à la Bigotière sous chapiteau. Donc on a une projection du film L'intelligence des arbres, suivie d'une table ronde avec des acteurs du bois et des forêts. Donc on y retrouve des élagueurs, on y retrouve une personne qui est guide en forêt, enfin guide on peut dire plus sur le côté émotion je dirais, quoi, qu'on peut avoir au contact des arbres. On y retrouve aussi des personnes qui gèrent les replantations de haies pour recréer les bocages, pour reconquérir la qualité des eaux. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'intervenants qui sont super chouettes et qui méritent le détour pour cette belle soirée sous le chapiteau.
Dans la forêt, tout ne se déroule pas sous nos yeux. Les racines d'un arbre peuvent s'étendre sur 2 à 4 fois l'envergure de sa ramure. Il a fallu attendre de disposer d'une technologie de pointe pour les observer en profondeur et découvrir que leur fonction dépassait largement celle de simples tuyaux d'eau. En orientant mes recherches vers l'observation de la partie souterraine des arbres, je me suis aperçue que lorsque des bouleaux, des sapins, des cèdres et des pruches poussent dans le même secteur, leurs racines s'entremêlent et se connectent entre elles.
Donc ça c'est jeudi 8 juin à partir de 20h30 sous chapiteau à la Bigotière et vendredi 9 juin, on va pas très loin au cinéma de Dole de Bretagne.
Voilà, donc là on a aussi eu la chance d'avoir le partenariat avec le Ciné Dole en fait pour cette soirée, et puis la venue de Laurent Charbonnier, qui est le réalisateur du film Le Chêne et ses habitants, qui est vraiment un film extraordinaire, faut pas hésiter à venir en famille, un film où on voit une année sur un chêne, avec tous les animaux qui vivent, que ce soit sous les racines, ces petits rongeurs, ou le balanin qui fait des trous dans les glands, ou les gels, les écureuils, enfin bon, voilà, vraiment moi je l'ai vu et je conseille vraiment à tout le monde de venir se ressourcer au contact de ce film.
Ça, c'est vendredi 9 juin, toujours à partir de 20h30 au cinéma de Dole de Bretagne. Le temps fort, ce sera sans doute ce week-end, samedi 10 et dimanche 11 juin. On espère que la météo sera clémente pour cette fête de l'arbre. On se rend donc à la Bigotière avec, on commence par ça, l'inauguration d'une drôle d'installation. Je crois que vous avez bricolé ça, l'inauguration, ce sera le samedi matin. un nid de marsupilami.
Eh oui.
D'où est venue cette idée?
Ah, vous savez, que serait le monde sans utopie? Bon, je pense que c'est pas de moi. D'où est venue l'idée? L'idée d'avoir une scène perchée, d'avoir quelque chose un peu en hauteur dans les arbres. Et Pierre-Rémy m'a dit, mais il faut qu'on fasse une construction en végétal. Et du coup...
Qui est Rémy?
Rémy, c'est une des nombreuses personnes qui participent à la création de l'événement. Et puis on a vu que comment l'association là-haut à Rennes avait déjà fait ça. Donc on a demandé s'ils étaient OK pour qu'on leur prenne l'idée. Et ils nous ont non seulement dit oui, mais envoyé un peu leur
modèle.
Leur modèle, voilà.
Ça a été fabriqué, c'est comment? C'est tressé, non?
Alors oui, c'est ça, c'est tressé en saule et en osier, avec aussi du châtaignier. C'est joli. Enfin, nous, on s'y est déjà habitués, puisqu'elle est perchée depuis ce week-end.
À quelle hauteur?
Là, il est perché à 3 mètres. Mais les gens qui passent trouvent ça très esthétique.
Alors, et sans doute
c'est
poétique.
C'est très touchant, voilà, oui.
Donc cette installation, elle sera à découvrir eh bien, dès le samedi matin. Au programme de cette journée également, des balades, lectures, une exposition. Et puis vous l'avez cité, cette association là-haut, qui est une association rennaise qui fait de la grimpe d'arbres, notamment dans le quartier de la Privalais, elle sera chez vous durant le week-end. J'en profite rapidement pour faire un clin d'œil à leur proposition dans le cadre de la Nuit des Forêts. Chez eux, leur événement est organisé le 17 juin en forêt de Liffré, en forêt de Rennes, avec des ateliers d'écriture et des performances live, évidemment organisées dans les arbres. On retrouvera donc cette association là-haut. Alors les deux après-midi, samedi et dimanche, et puis le dimanche matin pour emmener le public dans les arbres. J'imagine que c'est en petit groupe. Est-ce qu'il faut s'inscrire?
Alors on a choisi qu'il n'y ait pas d'inscription. Bon, on pense qu'il y aura un peu d'attente, mais ça vaut le coup d'attendre un petit peu pour passer une heure là-haut. Respirer ou lire ou faire ce qu'on a envie, mais vraiment dans le houppier, là, à la cime de l'arbre ou au cœur, au plus près des branches. Voilà.
Pour avoir tenté l'expérience avec eux, j'ai souvenir que c'est un peu sportif pour réussir à se hisser là-haut.
Ah ben oui, mais on n'a rien sans peine.
Voilà, je préviens juste les auditeurs. Également à découvrir durant le week-end, il y aura un village des métiers autour de l'arbre. On retrouvera combien de... Quelles professions représentées
Quelles professions? Alors, avec la SIC NR, principalement les élagueurs en fait. Hein, donc je rappelle que l'élagueur n'est pas seulement la personne qui vient pour couper votre arbre ou les branches qui gênent, mais aussi quelqu'un qui généralement est amoureux de l'arbre et qui va lui réfléchir comment soigner, comment prendre soin de l'arbre, voilà. Il y a aussi un menuisier qui a beaucoup travaillé pour la rénovation de nos bâtiments et qui est la bonne personne pour parler de vos besoins en menuiserie ou de vos questionnements en fait sur le métier. Il y a aussi Philippe Gordien qui est vannier à côté de chez nous, à la Boussac, là, qui fait des très très beaux objets en vannerie et qui sera là pour travailler, pour présenter ce qu'il fait, mais aussi pour proposer à la vente quelques objets qu'il a déjà ou que vous pourrez lui commander.
Ce village des métiers du bois et de la forêt, il sera à découvrir donc le samedi 10 juin de 14h à 18h. Il y a beaucoup de choses au programme qu'on peut retrouver en ligne sur le site internet leruisseau-coop.bzh. Pêle-mêle, il y aura également aussi un jeu de piste, des ateliers de fabrication. Il reste des places d'ailleurs sur cet atelier sur lequel il faut s'inscrire pour construire des cuillères en bois.
Alors voilà, on peut venir avec l'objectif de repartir avec sa cuillère en bois, en fait, avec des essences locales. Donc il y a soit du merisier, du châtaignier, aussi du tuya, qui sont des bois qui sont assez jolis.
Voilà, la fête de l'art.
Il y a aussi des ateliers de dessin, qui aura soit le samedi ou le dimanche pour les enfants ou tout public.
Il y aura un moment sans doute nouveau pour certains participants, puisque la fête de l'arbre, c'est aussi samedi soir, avec là une veillée qui va se poursuivre tard dans la nuit, puisque certains participants dormiront sur place à la Belle Étoile.
Mais oui, encore une petite folie. Alors, la première partie de la veillée est sous forme participative. Alors, quelques-uns des organisateurs ont déjà préparé quelque chose de sympathique, mais on prend aussi tout ce que le public pourra amener, que ce soit un moment de danse, de conte, de chanson. Voilà, on aura aussi des guitares. Donc il y a ce moment de veillée. Ensuite, il y a deux choses de proposer au moment où la nuit tombe. C'est soit une balade nocturne à la recherche des chauves-souris, avec un petit peu de matériel pour les détecter, parce qu'on peut les voir, mais aussi en entendre. Et puis, au même moment, il y a aussi l'observation des astres, puisque les arbres sont en vue de nos petits 1,50 m ou 2 m de haut, sont en connexion avec les étoiles. Alors, du coup, on va observer les astres. Et là, il y a aussi une équipe sympathique qui prépare ce temps d'observation. Ensuite, ça sera le moment de dormir dans la forêt pour ceux qui se sont déjà inscrits.
Il y a maintenant des listes d'attente, donc on le dit, c'est plutôt complet pour cette partie nuit dans la forêt, avec des participants qui amèneront leur matelas et leur duvet pour dormir à la Belle Étoile. Reprise des animations le dimanche 11 juin, dès le matin, avec là encore plusieurs propositions. J'ai été attirée, moi, par le yoga de l'arbre. C'est quoi ça, le yoga de l'arbre ?
Alors, si on se reliait à soi, à notre arbre intérieur. En fait, c'est une proposition qui est faite par Mathilde, qui est professeure de yoga et qui va proposer, que ce soit à des personnes qui ont l'habitude du yoga ou qui découvrent, de passer une heure et quart à se recentrer sur son corps et sur ce qu'on peut faire au rythme de sa respiration, hein, pour ressentir nos racines et les vibrations.
Ça, ce sera proposé dimanche matin à 9h30, également à ce même horaire, une balade contée et chantée. Et puis l'après-midi, on retrouvera donc des ateliers de grimpe d'arbres et puis plein de jolies choses, expositions, le nid du marsupilami à tester, pourquoi pas. Je vous représente Gilbert Leduc, vous êtes donc un des habitants de la Bigotière, cet habitat partagé installé sur la commune d'Épignac, pas très loin de Dole de Bretagne, et vous coordonnez la fête de l'arbre première édition dans le cadre de la Nuit des Forêts avec la coopérative du Ruisseau, on la cite quand même. Plein de propositions donc qui ont lieu du jeudi 8 au dimanche 11 juin, on l'a pas dit mais la participation est libre, et pour plus d'infos il y a le site leruisseau-coop.bzh et puis le site pour la programmation nationale nuitdesforêts.com. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Animal Collective et son morceau Today Supernatural sur Canal B. C'est un titre à retrouver sur l'album Centipede HZ qui est sorti en 2012, le 9e album de ce groupe pop très expérimental, groupe américain originaire de Baltimore. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. On continue cette émission d'info avec non pas une, mais deux recommandations pour le week-end. Et oui, car chaque jour, je vous donne des recommandations souvent de choses à vivre. Là, on prend un petit peu d'avance pour deux recommandations culturelles pour le week-end. On commence avec un spectacle proposé samedi 10 juin dès 19h. C'est la compagnie Ocus de Saint-Germain-sur-Île qui sera sur scène pour présenter Entre Liens et Choux. La particularité, c'est que la scène, eh bien, c'est une fromagerie, la fromagerie de Lillet à Saint-Aubin-d'Aubigné. Entre Liens et Choux, c'est l'histoire d'une grande marmite dans laquelle chacun y met ce qu'il a apporté. Si ça vous dit quelque chose, c'est que les artistes partagent en fait leur version épique de la soupe aux cailloux. Et la soupe, elle va vraiment mijoter, confectionnée de façon collective. Et donc, en plus du spectacle, il y a un temps de dégustation et puis une veillée. L'ensemble dure 2h30. À noter que des animations sont également prévues sur le lieu, sur le site de la fromagerie, toute la journée, avec par exemple un marché de producteurs locaux, des concerts et puis des jeux pour enfants. Les tarifs pour le dîner-spectacle vont de 4 à 8 euros. Il faut apporter si possible son légume à mettre dans la soupe aux cailloux. Réservation et info via la plateforme de financement participatif helloasso.com. Il y a aussi le site de la compagnie, compagnie-ocus.com. A noter qu'une troisième et dernière représentation de ce spectacle aura lieu le 30 juin, cette fois du côté de Moisé. Le deuxième conseil du jour, c'est d'aller se promener ce week-end à Saint-Grégoire, à deux pas de Rennes, pour découvrir le festival Robinson, un festival art de la rue et musique qui va vivre sa 27e édition. 10 000 festivaliers sont attendus et je suis passée à côté. Ça se passe donc samedi 10 et dimanche 11 juin dans 7 lieux, surtout dans le parc de Robinson, d'où le nom du festival, mais aussi sur la péniche spectacle qui quitte son port d'attache pour faire étape à Saint-Grégoire. Il y aura du cirque, des histoires, de la jonglerie et de la musique. 17 représentations en tout de spectacles d'envergure internationale et d'autres plus locales, avec par exemple la compagnie rennaise Dounia qui sera présente avec son spectacle dansé XY, ça c'est dimanche à 15h. Certains spectacles sont par ailleurs proposés en partenariat avec le festival circassien iRoop.
Mousse, c'est un spectacle en 20 parties et on va commencer avec la partie 1. Je vous présente Denis, c'est le technicien du spectacle. Et moi, c'est Gaëlle et je m'occupe du jonglage.
Un festival, le Festival Robinson, qui défend son engagement pour le développement durable avec une brigade verte à rencontrer sur place, des bars à eau, des incitations à venir à pied ou en vélo. Un engagement écolo mais aussi social puisque ce festival il a lieu grâce à l'engagement de 60 bénévoles et qu'une partie des recettes, autre exemple, est reversée à l'association Tuba, association qui œuvre pour l'accompagnement de personnes avec des troubles autistiques ou plurihandicapés. L'événement est entièrement gratuit. Plus d'infos sur saint-grégoire.com. Voilà pour les deux recommandations du jour. Je vous laisse maintenant avec Marjolaine, étudiante en stage de la Skol Radio, qui part vers de nouveaux horizons après son stage à Canal B et qui reçoit là la CIMAD pour sa chronique bimensuelle.
Marion, bonjour. Vous êtes intervenante juridique au Centre de rétention administrative de Rennes pour la CIMAD, Association de soutien aux personnes exilées. Et toutes les deux semaines, vous nous donnez à voir ce qui se passe entre les murs du CRA. Et aujourd'hui, c'est avec un témoignage que vous venez au micro de Canal B.
Adama a été expulsée le 2 février 2023, après 27 jours enfermée au Centre de rétention administrative. Il nous a recontacté suite à son expulsion, depuis le Sénégal, pour nous raconter. Les trois premiers gars qui m'ont récupéré dans le centre de rétention, ça a été dur avec eux. C'était par surprise, j'ai lutté. Après, j'ai fini par me laisser faire. Et comme j'ai fini par me laisser faire, avec les autres policiers, ça a été. J'ai accepté mon sort, quoi. Parce que de toute façon, je ne pouvais plus rien faire. Dans l'avion, j'étais avec trois policiers, deux hommes et une femme. Ils ont discuté avec moi un peu. Arrivé à Dakar, les policiers ont donné les papiers aux autorités à l'aéroport. Je me suis enregistrée au poste de police. Ils m'ont posé des questions et tout. Et après, je suis partie libre. J'ai habité presque 21 ans là-bas, au Sénégal. Mais je n'y suis plus depuis 20 ans. Ça fait bizarre. Quand je suis revenue, j'avais perdu le contact avec mes proches. J'avais fait ma vie en France. Ça faisait 20 ans que j'étais en France. J'ai eu un problème et tout s'est écroulé. J'ai eu juste un problème et je ne mérite pas tout ce qui m'est arrivé après. Le plus difficile, c'est que je suis venue à sec. Sans parler d'argent, j'avais même pas d'affaires. Tout est resté à Brest. Ma famille au bled, ils pensaient pas qu'ils allaient me voir comme ça, revenir d'un coup, sans rien. Ça m'a travaillé psychologiquement. C'est dur à assumer. Après tant d'années, revenir comme ça, c'est la honte. C'est pas comme ça qu'ils m'attendaient. Maintenant, je suis déçue. Même un peu abattue. C'était inattendu pour moi. J'essaye de faire avec. J'essaye de tenir et de m'adapter. Je suis en bonne santé. C'est l'essentiel. Ils m'ont pas donné une chance. C'est ce qui me déçoit.
C'est terminé, une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.